femmes sacré cœur toi VDN ñoy yëgal mbokk julit yi xarit ak mbokk yi am di jamm yi di ko nuyu.
88.4 Radio Galère.
Bonjour à tous et bienvenue dans Kixa. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique. Je reviens à vous tout de suite. Est-ce qu'on m'entend ?
Radio Galère.
Bonjour à tous et bienvenue dans Kixa. Aujourd'hui, vous êtes avec Letty et Marie Sébillotte. Bonjour Marie.
Bonjour.
Voilà, donc nous accueillons cette doctorante de l'HESSS du Laboratoire des Instituts des Mondes Africains. Et aujourd'hui, on va parler de la colonisation du Congo, donc de 1861 à 1920. Et donc avant de commencer cette discussion, on va ouvrir l'émission avec une chanson qui s'appelle Minha Terra, Terra Minha de Felipe Mukengar. Je vous laisse apprécier, on se retrouve tout de suite.
Das matas sem fim, do Massabi com Tiguangaê, do Mayombe com o Marfim, do Zincongo e do Zimpinda, Satiés e Libote, do Xiluango sai bom peixe, das mapas sai meu manjé.
Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Kizaka. O Brasil eu enfrento, porque a mim não falta gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Kizaka. O Brasil eu enfrento, porque a mim não falta gente.
Eu sou sim filho do campo, pão de pai e mãe. Pra cá Congo eu avanço e ganhar a vida a pescar.
Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Kizaka.
Sadienzo, Iributi, Sadienzo, Sadienzo, Iributi, Sadienzo.
Eu sou sim filho do campo,
Voilà, donc on vient d'écouter Minha Terra, Terra Minha de Felipe Mukunga. Donc tu m'avais dit, Marie, que toi, tu étais tombée sur ce morceau-là en faisant des recherches sur Antonio Tiaba, je crois, de Costa, c'est comme ça que ça se prononce, et qui a donc signé un traité, le traité de Chinfuma, en 1883, établissant le protectorat portugais sur le territoire. Et donc, tu m'expliquais qu'en début de chanson, on peut entendre Filho de Tiaba, car il s'agit de l'arrière-grand-père de Felipe Zao, donc qui est co-auteur de la chanson et ministre de la culture du tourisme en Angola aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Merci. Et en fait, c'était marrant parce que donc je faisais des recherches sur ce Antonio Tiaba da Costa. J'ai bien aimé tomber sur des musiques, et ça m'est arrivé dans une autre musique que je t'ai envoyée, qu'on écoutera tout à l'heure, parce que tomber sur des musiques contemporaines quand tu travailles sur l'esclavage et des réalités qui ont plus d'un siècle et demi, qui sont lointaines de plus d'un siècle et demi, ça fait toujours plaisir de pouvoir faire des liens avec aujourd'hui. Et donc cet Antonio Tiaba da Costa, c'était une personne qui a eu une trajectoire assez improbable. Il était serveur ou serviteur d'un Portugais, on dit fils d'un chef, fils d'un prince. Et puis il a été blanchisseur, garçon de bord, sous-commis dans une compagnie de commerce. Et finalement, c'est par son mariage avec une reine locale, Samana, qu'il a obtenu vraiment la légitimité, etc. Il avait obtenu son pouvoir économique un peu à droite, à gauche. Et donc, il arrive dans ses signataires de ce traité, qui est un traité un peu contesté, parce que, comme on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais on ne sait jamais très bien les Européens quand ils signent des traités comme ça pour gagner du terrain, en fait, dans le processus de mise en place de la colonisation. Ils signent des traités avec des personnes qu'ils identifient comme chefs, mais après, dans leur discussion avec les autres Européens, la légitimité des chefs locaux est toujours un petit peu discutée. Parce qu'on ne sait jamais tout à fait. Enfin, souvent, il y a débat sur est-ce que cette personne, elle avait réellement du pouvoir ou pas.
Il y a une grosse. Ce dont on avait parlé en préparation de cette émission, ouais. Qui est une espèce d'incohérence entre les systèmes hiérarchiques des Européens à l'époque et les systèmes hiérarchiques sur le territoire congolais de l'époque, qui fait que ça ne se comprenait pas et qu'on ne pouvait pas être sûr. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je pensais qu'il était un peu important de remettre certaines dates en tête. Donc, notamment les dates qui sont importantes pour qu'on puisse parler de la période qui suit. Donc d'abord, c'est la date de 1665, la guerre Congo-Angola qui est perdue par le Congo. Et donc les historiens considèrent souvent que c'est la fin du royaume du Congo. Donc après, dans la fin du 17e siècle, donc après cette guerre, c'est le moment où le pouvoir commence à se décentraliser sur ce territoire. Et en 1861, on a un traité entre le roi du Congo et l'Angola, qui à ce moment-là est une colonie portugaise, et qui marque un peu le début de la grande du pic de la colonisation, du début en tout cas de la colonisation, que donc nous on va parler de cette période-là, donc de 1861 à 1920, et en gardant en tête qu'en 1884, le territoire dont on va parler est divisé en trois colonies, l'Angola portugaise, l'État indépendant du Congo, qui malgré le nom est en fait la résidence secondaire du roi de Belgique, et puis le Congo français. Donc voilà. Et donc pour démarrer cette discussion, je propose qu'on écoute un extrait du discours de Lumumba, donc pour l'indépendance qui a été fait pour l'indépendance du Congo, République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, et qui sera suivi et répondu par le discours de Sarkozy à Dakar au Sénégal en 2007, pour qu'on prenne en compte un peu comment est-ce que cette histoire vit et continue de vivre dans le monde moderne. Allons-y.
Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle, inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs, que nous n'étions admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. que nous avons voyagé à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe, qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
Je ne suis pas venu vous faire la morale. Je suis venu vous dire que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de l'Occident, mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne, car elle est l'appel de la liberté, de l'émancipation, de la justice et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance.
Alors voilà, on vient d'écouter donc le discours, un extrait du discours de l'indépendance du Congo RDC de 1960, donc de le discours de Lumumba, et qui est suivi par le discours de Sarkozy en 2007, donc presque 50 ans plus tard. Moi, j'ai mis ces extraits-là pour pouvoir te demander comment est-ce que la colonisation du Congo s'est faite, parce qu'on a souvent l'impression que ça prend 5 minutes, il y a des blancs qui arrivent, et puis en 3 ans, tout est plié, sauf que c'est pas du tout le cas, donc j'aimerais que je vais te laisser réagir aux extraits qu'on a entendus et me répondre sur comment ça s'est passé la colonisation sur ce territoire.
Ça marche, merci. Alors beaucoup de choses à dire sur ces extraits que j'ai choisis parce que bon, le discours de Sarkozy, je voulais le mettre même si c'est pas forcément hyper agréable à écouter, mais je voulais le mettre parce que ça a été un discours qui a beaucoup choqué en France et puis je pense aussi au Sénégal et peut-être au-delà, en 2007, quand il dit donc le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire et cet homme africain... Alors au début de son discours, le pire, parce que du coup je l'ai réécouté du début...
Ma pauvre
ouais. Et au début il dit non mais les Africains, c'est la modernité, etc. Tout le monde est différent, enfin il y a tout un truc... Je reconnais la diversité. Et puis après, ça passe sur cette image complètement fantasmée d'un homme africain immobile dans une société qui ne bouge pas, etc. Et c'est assez révélateur, bon, même si c'est à l'extrême, évidemment, mais de certains stéréotypes qu'on peut avoir sur l'histoire africaine et notamment précoloniale, okay. Qui est moins bien connue. Et où, comme on a peu de sources pour une grande partie des territoires africains, pas tous, mais... Pour une certaine partie, il y a peu de sources sur ce qui s'est passé avant la colonisation, parce qu'il y avait assez peu d'usage de l'écrit, même s'il y a plein d'endroits où il était un peu pratiqué. Et comme les historiens ont longtemps utilisé beaucoup les sources écrites pour faire l'histoire, et très peu les sources orales, on en avait parlé la dernière fois.
Oui, c'était une frustration qu'il y avait, parce qu'en fait, il y a plein de peuples qui ont des archives généalogiques de leur histoire, mais en fait, ils passent par des fois par des chansons, par des contes, etc. Et donc, en fait, c'est nous, en Europe, qui avons du mal à traiter l'histoire avec une source qui n'est pas écrite.
Oui, c'est ça. Et du coup, ça a un peu biaisé le regard avec, enfin, en tout cas, l'idée que, bon, comme on ne peut pas faire cette histoire, on va supposer qu'il ne s'est rien passé. Bon, maintenant, l'histoire orale, elle est beaucoup plus utilisée, ou même l'utilisation des sources archéologiques, ou comme tu dis, les proverbes, etc. Mais voilà, du coup, on a cette image d'une Afrique qui ne serait pas entré dans l'histoire. Et je voulais mettre ça avec le discours de Lumumba, qui est donc le premier chef d'État du Congo indépendant. Alors, peut-être qu'il faut quand même que je dise que quand là, cet extrait, c'est donc sur ce qui devient la RDC, c'est qu'une partie du royaume que j'étudie, qui était sur trois colonies, donc je réponds un peu à ta question d'après. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, sur trois colonies, et donc là, c'est la colonie qui était anciennement le Congo belge. Et ce discours, il l'a prononcé en présence du roi belge au moment de l'indépendance, en commençant son discours « Désormais, nous sommes des États amis, mais par contre, on a souffert et voilà tout ce que vous nous avez fait. » Et donc, ça met quand même le roi belge dans une position, je pense, enfin,
ça le confronte.
Et
en même temps, il a raison, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vivre d'amitié, surtout à l'échelle de nation, s'il n'y a pas de politique de réparation, une reconnaissance et un pardon qui est institutionnel et qui n'est pas simplement symbolique. Donc c'était pas mal, je trouve que c'est très très fort et très classe de dire ok, nous on fait le chemin de mettre en place une amitié, par contre c'est en reconnaissant les souffrances de ton peuple, quoi. Sinon ça marchera pas, quoi.
Ouais, c'est clair. Et ce discours est très puissant. Et en fait, j'ai choisi cet extrait-là parce qu'il commence en parlant des textes prétendument légaux. Et ça fait un petit écho avec ce dont on parlait juste avant, sur les traités qui sont passés au début de la colonisation. Et donc ça me permet de répondre aussi sur la manière dont la colonisation se met en place. C'est qu'en fait, les premières personnes européennes qui viennent au début de cette colonisation, même s'il y a eu des contacts depuis très longtemps pour le Royaume du Congo, depuis au moins le 15e siècle, ou plutôt le 16e siècle, les traités qui... Ouais, voilà, donc c'est...
Oui, ce que tu disais, c'était que quand la colonisation a commencé, en fait, tu avais des Européens qui se battaient entre eux en disant « C'est moi qui ai le droit d'être chef sur ce territoire parce que j'ai fait un traité avec le bon chef, le chef le plus fort du territoire. » Et tu avais son voisin européen qui disait « Bah non, c'est nous qui avons le traité avec le chef le plus important. » Et du coup, il y avait une vraie incompréhension de quels étaient les systèmes de pouvoir et de hiérarchie là-bas.
Il y avait à la fois ça... Et aussi, on dit souvent que les traités qui étaient passés, c'était en fait les personnes qui signaient avec une croix et ne savaient pas tout à fait ce à quoi elles étaient en train de consentir du point de vue des Européens. Et que donc, c'est pour ça qu'ils parlent aussi de textes prétendument légaux, parce qu'en fait, s'ils sont signés avec des parts qui sont complètement inégales et que les personnes ne savent pas exactement à quoi elles s'engagent, bah, et en fait, c'est de la spoliation pure et simple, quoi.
Oui, puis il faut voir aussi comment est-ce que les accords étaient faits avant les Européens, parce que je me doute bien que si tu arrives en disant chez nous la signature, ça a vocation d'engagement à vie, si le principe même d'une signature, c'est quelque chose qui est un peu étranger dans ces cultures-là, c'est potentiellement un geste de bah oui, si tu veux, pour te faire plaisir, je fais une croix sur un papier, mais pour moi, ça veut rien dire. Mais oui, du coup, en fait, c'était ça. En fait, moi, quand on a préparé l'émission, ce qui m'a impressionné dans mon espèce de cliché européen, parce que bon, moi, j'ai une culture générale qui est pas particulièrement experte sur l'Afrique, voire beaucoup moins experte que ce qu'elle devrait être, il y avait vraiment, t'as mis vraiment du temps à m'expliquer comment est-ce que ça s'est fait dans la lenteur, que c'est pas du tout, parce qu'en Europe, on nous vend aussi pas mal le récit de nous les Blancs, on avait des techniques, une technologie martiale hyper performante, et donc même s'il y a eu des guerres pour nous empêcher de venir piller le pays, en fait, ces guerres ont été relativement courtes, parce que technologiquement, on n'était pas d'un pied d'égalité là-dessus, sur nos technologies. Et donc, on a cette sensation que ça prend... que ça prend 5 minutes, alors qu'en fait ça a été toi tu m'as beaucoup parlé par exemple du rôle des explorateurs et des missionnaires et des administrateurs qui ont vraiment des rôles très différents dans l'application, dans la mise en place de la colonisation au Congo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces trois rôles là, quoi?
Ouais, alors les administrateurs, peut-être que ça vient un peu plus tard.
Okay.
D'abord, les premières personnes du coup qui sont envoyées ou qui décident de partir et qui obtiennent le soutien de leur gouvernement européen, c'est plutôt donc les administrateurs et les missionnaires qui sont souvent parmi les premiers à s'installer dans certaines régions du Congo. Et du coup, avec deux perspectives différentes, mais il y a quand même un petit peu le même idéal, tu vois, de l'explorateur, quoi. Et donc, ils viennent... Donc, par exemple, les premiers explorateurs au Congo... L'objectif, ça va être d'essayer de traverser l'Afrique d'ouest en est et de découvrir les routes par lesquelles on va pouvoir progresser au sein de ce territoire, sachant qu'on est dans un espace plutôt équatorial avec beaucoup de forêts, des fleuves qui ne sont pas toujours praticables et pas de route, pas de voie carrossable, enfin, il n'y a pas de voiture, etc. Donc, là, en fait, les transports sont très lents. On voyage beaucoup les explorateurs voyagent beaucoup avec toute une caravane de porteurs qui portent leur...
Quand tu dis porteurs, tu parles d'humains ou tu parles de camions ?
D'humains.
Ah oui, d'accord, voilà. Parce que j'avais un petit doute, j'étais genre, on pourrait, tu sais, les transporteurs, on appelle des camions ou des charrues, des transporteurs, donc je me suis dit, de quoi tu parles ?
Non, des personnes qui étaient engagées pour les suivre pendant des temps qui vont de très courts à vraiment sur des mois pour aller, suivre l'expédition. Et qui débroussaille en gros des chemins et qui essaye de cartographier aussi le territoire pour pouvoir identifier les zones sur lesquelles les États européens vont pouvoir s'installer.
Oui, donc ça les ralentit déjà, le fait qu'il n'y ait pas des voies qui les attendent déjà, des chemins, des pavés, etc. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que déjà pour pouvoir asseoir sa puissance au Congo, sur les territoires congolais d'ailleurs à l'époque, il faut pouvoir avancer. On n'est pas sur une époque où tu as des tanks.
C'est un enjeu énorme, c'est un enjeu qui apparaît dans toutes les archives quasiment, et ils ont beaucoup de mal, de plus en plus dans la période, à recruter des porteurs, à trouver des personnes qui sont OK pour faire ce travail-là. Et donc il y a tout un enjeu, ils négocient avec les États voisins un peu plus tard, une fois que la colonisation est bien implantée, pour essayer de faire venir quelques centaines de personnes pour venir être porteurs. Et les porteurs sont aussi... portent aussi de temps en temps les humains, les Européens, les explorateurs, sur leur dos ou sur des sortes de chaises à porteurs.
Ouais.
Ou les missionnaires beaucoup aussi. Donc parfois c'est quand même assez marrant dans les archives. T'as la personne qui écrit « Oui, voilà, j'ai fait ce voyage, c'était vraiment très très long, très très difficile, etc. » Puis tu vois les images, ou bien il le glisse dans quelques phrases après. En fait, il était sur le dos des Africains, quoi.
Ouais, littéralement, là, pour le coup. Ouais, y a pas de métaphore là-dedans, quoi. C'est assez impressionnant de se rendre compte à quel point on a besoin d'avoir des... En tout cas, moi, j'ai le besoin de me rendre compte comment ça s'est fait concrètement et où est-ce que ça se passait. Parce que, effectivement, tu m'avais dit que dans la prépa, qu'il y avait eu des guerres violentes, évidemment. Mais que par contre, la colonisation s'est beaucoup plus appuyée sur des questions en fait de politique de terreur vis-à-vis de taxes en fait, de taxes qui n'existaient pas, de frontières qui n'existaient pas, et donc tout d'un coup, je vais peut-être te laisser te parler de comment est-ce qu'on on implique la colonisation par la terreur des taxes, si je puis dire.
Il y avait cet enjeu de contrôle du territoire, de connaissance du territoire et de contrôle du territoire. Et cette question des taxes et des impôts, donc c'est une question pareille qui reste pendant toute ma période, je pense. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'administration coloniale, elle se met en place progressivement parce que les États européens n'envoient pas forcément suffisamment de moyens humains ou matériels, etc. Et donc, les Européens sont quand même en minorité. Et donc, il y a cette politique de la terreur qui est menée dans certaines zones, et dont on trouve des traces dans les archives de villages brûlés, de femmes prises en otage pour contraindre leurs époux, leur famille à payer l'impôt. Enfin, une série de choses comme ça qui est assez bien documentée pour notamment l'État dit indépendant du Congo, qui était donc la possession personnelle de Léopold II, le roi de Belgique, jusqu'à 1908, où ensuite c'est devenu une colonie belge. C'est assez bien connu, cette histoire des violences et des atrocités qui ont eu lieu pour dominer la population et pour les... Voilà. Mais il n'y a pas eu de guerre coloniale... très très important. Enfin, disons qu'en tout cas, la colonisation s'est pas installée par une grande guerre où un peuple contre un autre et on a gagné et donc on a établi notre pouvoir. Ça s'est fait de manière plus insidieuse. Mmh. Et les missionnaires ont aussi un rôle quand même là-dedans. Souvent, c'était un peu les avant-postes parce que leur présence, même si eux, ils s'en défendent beaucoup dans leurs archives, leur présence sur place, elle permettait quand même de dire, là, on a des missionnaires français. Donc, ça assoit un petit peu la légitimité de la France à l'échelle européenne pour dire regardez, nous on est implantés là, etc. On connaît, ça permet de signer des traités parce que il va y avoir des liens aussi entre tous les mondes coloniaux, commerçants, missionnaires.
Oui, parce que c'est ça en fait, on a souvent l'impression que la colonisation c'est un État occidental sur un peuple en particulier, par exemple d'Afrique, mais en fait la présence coloniale en Afrique crée des choses entre les Européens. Ça, en fait, c'est des guerres. C'est beaucoup plus. On a l'impression que c'est aussi beaucoup plus des guerres entre Européens qui vont faire la guerre sur des territoires sans prendre en compte le fait que bah ils ont rien à foutre ici, quoi. Oui, mais on minimise beaucoup le côté aussi de comment s'est passé les conversations intra-européennes là-dessus, alors que c'est un gros enjeu. Alors moi, j'aimerais bien rebondir parce que tu as eu le malheur de faire allusion aux femmes. Et donc, c'est un petit chapitre que j'aimerais bien évoquer avec toi. Donc, avant de te poser des questions sur les femmes dans la société congolaise et comment ça s'est passé au niveau de la colonisation, je propose que nous écoutions une chanson de la rappeuse congolaise Rineka qui s'appelle The Ndumba, qui veut dire la prostituée, mais dans certaines archives, on retrouve aussi ce terme-là pour parler d'une femme libre non mariée, c'est bien ça ?
Ouais.
Voilà, donc je vais vous laisser découvrir et apprécier la chanson de Rineka, The Ndumba.
Zambe fana zata bokechu otike langa ya mari misambu peut-être na bombo na peut-être na diminuo ni voix masumu zata moli mo chaka Congo ozongi sa papa weba ou bien faire aller mon loto ya yo vinanga bandumba bo jete bozutu ganga wana na lola histoire vinanga masto yebite donc yebite ndengenga na kola bozali pena miso komona mais bozo mona te yo na zomona ebela basekele na motema nanga ya mokili toyu mabutau motema neti kayu nandimiki deuxième pour premier gaou n'est pas gaou na yekola kisaba faiblesse te naza deiste naza derrière de ndumba ya Moi bien kota lol avant les 12 apôtres Lala qui dit bana beto 12 apôtres Nazandumba ya makasi na sokola makolo ye soupe na chamalasi Moi bien kota lol avant les 12 apôtres Lala qui dit bana beto 12 apôtres Nazandumba ya makasi na sokola makolo ye soupe na chamalasi na sokola makolo ya yemei Mutu te aye bisanga quoi faire de ma vie mobala ba sebele salarien Pourquoi moi c'est une défaut pour traiter de pute Na banga mototé, na juge mototé Femme libre, j'ai ma sina yoka mototé Moi si mou bali, bali, de na zali Zali na zana tanke na kipe oyo zali Mou yi bien kota lol avant les 12 apôtres Lala ki diba na beto 12 apôtres Na zandumba ya makasi Na sokola makolo ye soupe na chamalasi Mou yi bien kota lol avant les 12 apôtres Lala ki diba na beto 12 apôtres Nazandumba ya makasi Na sokola makola ye soupe na chamalasi Vinanga bandumba bo jujete Bogo zutu ganga wana na lola Histoire vinanga masto yebite Donko yebite ndengenga na kola Boza lipe na miso komona Me bozo mona teyo na zomona Ebela basekele na motema nanga Yo International Orly Bemba Emani Kimbuta, Stevie Mundele, Joss Mundele, just for you, my nigga.
Alors, vous venez d'entendre la chanson Ndumba de Rineka. Et donc, est-ce que tu peux nous parler, du coup, qui nous fait la transition un petit peu avec le statut des femmes pendant l'esclavage, en fait ? Parce que, justement, le statut, la place qu'elles occupent dans les sociétés, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour les Européens à l'époque. Et du coup, il y a une vraie ambiguïté sur, historiquement sur qui elles étaient et quelle place elles avaient. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la division sexuelle du travail, par exemple, au Congo, à ce moment-là ?
Oui, alors, juste pour en deux mots sur cette chanson, quand même, pareil que l'autre, je suis tombée dessus en faisant mes recherches pour essayer de comprendre ce que signifiait ce terme de Ndumba, et je tombe sur cette vidéo de cette rappeuse. Et en fait, du coup, en cherchant un petit peu les différentes définitions, je croise à la fois prostituée, femme déviante, etc., dans les archives, et et aussi notamment un rapport d'un administrateur belge qui signale que dans les sociétés du Congo, enfin du royaume du Congo du coup, il y a la femme mariée qui est une esclave et la Ndumba qui est une femme libre. Et elle est libre de... Et il la distingue de puta qui viendrait du portugais du coup, pute quoi. Et qui serait très mal vue, la pute. Mais par contre, la Ndumba, c'est une personne qui a du, la dignité, qui est respectée, etc. Mais qui est complètement libre de choisir ses...
Et la société congolaise lui laisse une place comme, n'importe, comme les femmes mariées ont une place ou les hommes mariés ont une place. Quoi.
Sauf que pour lui, les femmes mariées, ce sont des esclaves. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi.
Alors, pour lui, c'est-à-dire le, pour l'Européen.
Pour l'administrateur.
Ouais, oui, pour l'administrateur, ouais, ça.
Et il dit les femmes mariées sont toutes des esclaves. Et c'est quelque chose qui revient dans plein d'autres archives. À la fois missionnaire et administrative, quand elle touche à la question de l'esclavage, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ces questions de l'esclavage et de leur définition, parce qu'on va voir, c'est hyper compliqué. Et donc, lui, il dit, et donc souvent, on retrouve cette idée que toutes les femmes sont des esclaves, parce qu'il y a la polygamie, parce que lors des alliances matrimoniales, lors des mariages qui sont organisés par les deux familles, donc celle de l'homme et celle de la femme, il y a un échange de biens, donc c'est la famille de l'homme qui va donner des biens ou de l'argent plus tard à la famille de la femme. En compensation, en fait, c'est ce qu'une chercheuse appelle la compensation matrimoniale. Et donc, ce n'est pas une dot, enfin, parce qu'il parle aussi de dot inversée ou d'achat. Et il l'interprète complètement comme de l'achat de personnes.
Oui, alors que ce que j'ai compris de quand on a préparé l'émission, c'est plus un truc de, dans la société congolaise, la femme, elle a une place, elle représente un atout ouais. pour le travail, quel que soit ton travail, que tu sois boucher ou agriculteur, quoi.
Et en fait, elle travaille souvent énormément, et du coup, la compensation matrimoniale permet de compenser le fait qu'elles ne seront plus dans leur famille, puisqu'elles vont aller vivre avec le mari. Elles ne seront plus dans leur famille pour fournir ce travail. Et ce qui nous amène à ta question sur la division sexuelle du travail, c'est que, en fait, en général, dans le royaume du Congo, parmi les personnes non esclaves, donc parmi les libres, ce sont les femmes qui font la majorité des travaux agricoles, avec de temps en temps l'aide du mari. Et les hommes sont plus occupés au commerce de longue distance ou à ce genre de choses, où ils vont faire la guerre, etc. Et il y a une division assez nette qui est remarquée par la plupart des historiens et des historiennes. Mais cette division ne s'applique pas aux esclaves. Les esclaves, hommes et femmes, peuvent faire des tâches dites féminines. Enfin, de travail agricole.
Alors voilà, là on en vient au sujet vraiment cœur de tes recherches et de son émission. C'est, en fait, c'est un peu compliqué de parler du mot esclavage ouais. parce qu'il y a des définitions qui sont très différentes selon qui parle déjà, évidemment, et selon sur quel territoire on parle. C'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage en Europe, l'histoire de l'esclavage en Afrique, c'est quand même des choses très très différentes. Ouais. Et typiquement, moi j'aimerais bien, et un des trucs qui m'a marqué quand on a préparé l'émission, c'est le fait que les Européens, quand ils ont réduit en esclavage et qui devaient choisir des personnes pour les esclavagiser, prenaient plutôt des hommes. Ouais. Et qu'il y a une ambiguïté sur le pourquoi. Donc moi, j'ai envie de te forcer à répondre à cette ambiguïté en disant, mais pourquoi est-ce qu'on prenait que des hommes ?
Alors voilà, alors ça, c'est un débat parmi les historiens et les historiennes sur est-ce que c'est parce que les Européens veulent la main-d'œuvre forte et donc vont privilégier les hommes en se disant que ce sera des meilleurs travailleurs, ou est-ce que ça viendrait des peuples africains qui ne voudraient pas céder les femmes puisqu'elles sont plus valorisées ? Et alors, selon les territoires, bon, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, etc. C'est difficile de savoir, mais quand même, on observe, en tout cas dans certaines parties du Congo, que, et selon les périodes, etc., c'est jamais aussi clair, mais que les femmes ont une valeur marchande supérieure pendant la traite atlantique.
Ah oui, d'accord, ok. C'est...
Au sein de l'Afrique, enfin, sur le territoire africain.
Oui.
Parce que, voilà, il faut aussi peut-être qu'on distingue pour les auditeurs RIS, que la traite atlantique, moi, qui ne m'intéresse pas tant que ça, qui n'est pas au cœur de mon sujet, donc les esclaves qui sont envoyés vers les Amériques et l'esclavage africain qui se pratique sur le continent. Quels que soient les acteurs, actrices, ça peut être avec des Européens ou juste entre Africains. Ouais. Donc déjà, moi, je travaille plus sur cet esclavage-là, puisque la période que j'étudie, c'est après l'abolition de la traite atlantique, qu'il n'y a plus grand-chose. Dans les années 60, il y a encore un petit peu des bateaux clandestins qui partent.
Alors, attends, quand tu dis les années 60, pour moi, c'est 1960. Pardon. Là, je sens que tu parles de 1860. Oui. Oui, c'est ça, d'accord. Donc oui, à partir des années 1860...
Il y a encore un petit peu de bateaux clandestins qui partent vers les Amériques, avec des esclaves, mais ça, c'est assez faible, quand même.
Okay.
Et par contre, l'esclavage africain, il prend plus d'ampleur encore à ce moment-là, parce que justement, toutes ces personnes qui étaient envoyées vers les Amériques, elles ne partent plus, mais il y a toujours les réseaux commerciaux de vente d'esclaves, etc., sur le territoire africain. Bon, après,
vas-y. Alors voilà, je vais faire la transition avec ce que j'aimerais bien qu'on parle un peu d'un des archives que tu m'as donné à travailler avant de cette émission, qu'on malheureusement n'a pas pu diffuser tel quel pour des raisons techniques. Donc on a fait la transcription. Donc il s'agit d'un documentaire. Hop là, c'est un documentaire où en fait ils montrent des images d'une expédition au Congo qui a eu lieu entre 1911 et 1913 à des jeunes bruxellois. Et d'ailleurs, moi, dans les extraits que tu m'as montrés, tous les jeunes bruxellois sont pas seulement racisés, mais sont noirs. Ouais. Et je sais pas si c'est le cas dans tout le documentaire ou si c'est simplement les extraits, mais en tout cas, c'était ce qui était intéressant, c'était de voir des bruxellois modernes, noirs, probablement issus aussi de cette histoire coloniale, qui réagissent à ces images-là. Et donc, dans le premier extrait, on voit donc les porteurs dont tu parlais. La première réaction des jeunes bruxellois, c'est de dire mais en fait c'est fou parce que là on voit bien que les porteurs ont des armes, mais ils ne se soulèvent pas. Et ça, c'est quelque chose qui était dans la vision, pour quelqu'un d'occidental moderne, mais même pas forcément occidental, mais pour une société abolitionniste, c'est très compliqué de comprendre comment est-ce qu'on a des armes et qu'on ne soulève pas. Et lui, il a cette phrase où il dit « le lavage de cerveau, il est tellement fort qu'en fait, ils n'arrivent pas à prendre les armes ». Et le deuxième extrait, c'est, je vais vous lire la transcription littérale de ce que disent ces jeunes bruxellois en voyant les images. Ils disent, il y en a un qui dit, j'ai regardé un documentaire en Italie, dans des usines, des gens travaillent, ils ne sont pas payés, ils les frappent, t'as pas le choix, tu vas travailler chaque matin. Comme ils savent que c'est des sans-papiers, soit tu viens travailler, soit ils appellent la police et ils donnent ton adresse. C'est pas de l'esclavage, ça? Pourtant, ils ne vivent même pas en Afrique, ils vivent en Europe. Et donc, c'est ça, pour moi, qui est important de retranscrire ce documentaire qui a l'air absolument fabuleux, et te demander, en fait, c'est quoi l'esclavage, en fait? C'est quoi l'esclavage, la différence entre la définition de l'esclavage qu'on a, nous, aujourd'hui, dans l'espace commun, et l'esclavage, les termes de l'esclavage que toi, tu étudies. Donc, je te laisse nous expliquer les différents termes d'esclavage.
Ok, merci. Donc en fait, c'est un peu l'un des enjeux énormes auxquels je suis confrontée et avec lesquels j'ai du mal depuis le début de mon travail, c'est de comprendre de quoi je vais parler, de quoi je parle. Qu'est-ce que ça veut dire esclave ? Parce que donc c'est un terme qui est utilisé tout le temps dans les archives européennes, tu vois, de manière non ambiguë. Enfin, sauf que, comme je te disais, ils en parlent pour les femmes. Toutes les femmes sont esclaves, voilà. Mais on te dit pas beaucoup plus. Et donc c'est un terme qui revient, mais sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Et donc en fait, si on y regarde un petit peu de plus près, il y a plein de formes de choses qu'on associe à l'esclavage qui sont pas forcément de l'esclavage au sens propre. Enfin, comment dire, c'est compliqué, hein.
C'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, c'est ce qui m'a marqué quand on a préparé le truc, l'émission, c'est que je me rendais compte que déjà, moi, j'avais une définition de l'esclavage où tu me disais c'est intéressant que tu parles de consentement, alors que pour moi, c'est une histoire d'être coupé de son lignage. Ouais. Après, tu m'as parlé de l'esclavage africain. Ouais. Donc là, on parle de choses que les Européens appellent esclavage, mais qui est en fait une forme d'organisation. Tu vois, après, éthique ou pas éthique, ça on peut en débattre, mais c'était en tout cas des mots qui ont été posés sur une organisation africaine sans les blancs, et c'est les blancs qui ont posé ces mots dessus. Donc, est-ce que tu peux me parler de la définition de l'esclavage historique, le truc du lignage déjà?
Ouais, voilà. Donc en fait, la plupart des auteurs, des historiens, des historiennes s'accordent sur le fait que, enfin, définissent l'esclavage africain. Il y a beaucoup de débats, hein, mais un point sur lequel ils s'accordent, c'est le fait d'être coupé de son lignage et donc d'être un peu perçu comme un étranger. Là-dessus, il y a... Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une société matrilinéaire dans le Royaume du Congo. Donc la descendance, la filiation passe par les femmes. Les esclaves, contrairement aux personnes libres, seraient celles et ceux qui sont retirés de leur lignage maternel et qui n'ont pas la protection de ce lignage. Après, il faut distinguer quand même entre l'esclavage au sein des familles, des villages, qui est plutôt un esclavage qu'on peut qualifier peut-être de domestique, et l'esclavage royal aussi, parce que là, je vous parle du royaume depuis le début, c'est un grand royaume, le royaume du Congo, où l'acquisition d'esclaves, c'est aussi une marque de puissance, c'est aussi une marque d'autorité pour le roi, pour la cour royale. Donc il y a un peu à la fois l'esclavage royal, qui est plutôt celui des hautes sphères, et puis l'esclavage plus du quotidien, qui va recouper peut-être une grande diversité de situations qui vont de du remboursement d'une dette, donc esclavage pour dette, mais qui peut être sur une durée très limitée.
Donc concrètement, tu payes, tu rembourses en nature et tu t'arrêtes ta vie, tu te coupes de ta famille pendant un temps imparti et tu te mets au service de la personne pour rembourser ta dette, mais c'est temporaire.
Mais c'est temporaire, même si ça peut finalement durer jusqu'à la fin.
Ok.
Et ça peut aussi être délégué, donc tu peux envoyer quelqu'un pour rembourser ta dette à ta place, notamment un enfant, et souvent les enfants faisaient partie des personnes les plus mobiles et souvent aussi des esclaves les plus nombreux, tout comme les femmes, donc comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être donc le remboursement d'une dette, la mise en gage, donc tu vas te mettre en gage pour quelque chose, pareil, ça peut être délégué. Et en fait, il y a plein de termes, et là, je suis en train de travailler sur un dictionnaire d'un missionnaire suédois qui était donc dans le royaume du Congo, et c'est un dictionnaire de plus de 1000 pages, qui a été publié en 36, mais il a commencé ses recherches en 1900, donc ça donne quand même, enfin, l'épaisseur de sa recherche, elle va bien plus tôt du coup que 36. Et dedans, il propose plein de manières de décrire et de définir l'esclavage. En fait, c'est une traduction français Kikongo. Kikongo, qui est du coup la langue du royaume du Congo.
Qui est toujours parlée d'ailleurs aujourd'hui. En majoritairement, tu le sais ou pas d'ailleurs, ça, si c'est la proportion de locuteurs?
Ça, je sais pas. Mais par contre, en fait, à l'échelle de la RDC, par exemple, comme c'est le royaume du Congo, c'est quand même une petite partie, en fait. Donc, c'est pas la langue majoritaire du tout.
D'accord, ok. Voilà. Oui, parce que moi, dans mes clichés, j'ai tendance à souvent être habituée que des pays qui ont été colonisés sont souvent 100% locuteurs de la langue du colon. Ouais. Et 100% locuteurs de leur langue territoriale traditionnelle. Il y a souvent des langues qui coexistent comme ça. Ok, bon, ce n'est pas le sujet. J'inviterai une linguiste congolaise pour parler de ça. Donc là, tu me parlais, donc tu allais chercher un Suédois qui a traduit du Kikongo à l'anglais ou au Suédois?
Du français. Waouh, Kikongo français. Mais du coup, ça m'a amené d'ailleurs, mais bon, petite parenthèse, à tomber sur plein de trucs écrits en suédois et je suis en mode « Ah, bah, je peux rien faire
». C'est une question, hein, la traduction en histoire aussi. Hein.
Et du coup, tu vois, j'ai repéré toutes les mentions du mot « esclave » en français et c'est traduit par « il y a une tonne de vocabulaire en fait en Kikongo pour parler d'esclavage, selon que tu veux mettre l'accent sur le travail des esclaves, le fait qu'ils produisent de la richesse, qu'ils soient un marqueur de richesse et de pouvoir, ou bien selon la manière dont ils sont mis en esclavage. Donc ça peut être par des guerres, par des radias, par de l'achat, par de la transmission. » Donc les descendants d'esclaves, en fait, qui sont eux-mêmes esclaves.
Oui, parce que tu me disais que dans l'esclavage royal, donc le fait de prendre des esclaves pour montrer à tout le monde que tu as la plus grande bourse, si je puis dire. Et en fait, tu me disais qu'ils choisissaient particulièrement des prisonniers de guerre et que leur choix sur qui étaient quel type de personnes vont être raflées sont importants aussi pour le prestige royal. C'est pas la même chose. J'ai l'impression que dans l'esclavage royal, ce n'est pas la même chose de prendre un esclave qui est prisonnier de guerre que de prendre un esclave qui est fils de paysan.
Mais aussi parce qu'en fait, l'esclavage royal, pourquoi ça va être plutôt par les guerres? C'est aussi que c'est des étrangers et que du coup on va aller récupérer plein d'étrangers prisonniers de guerre qui vont devenir, alors que l'esclavage qui se fait de manière plus locale, il n'y a pas cet enjeu. Mais par contre, ça, il y a une historienne qui a montré qu'il y a eu un shift en fait. Autrefois, dans le royaume du Congo ancien, les personnes du royaume du Congo ne pouvaient pas être mises en esclavage, et il y a un moment où il y a eu une transformation et d'un coup même les personnes à l'intérieur du royaume ont pu devenir susceptibles d'être mises en esclavage. Parce que les conditions extérieures faisaient que...
Ça d'ailleurs, c'est un truc, c'est pour ça que je comprends maintenant, à force de préparer l'émission et de la faire avec toi, je comprends pourquoi est-ce que le lignage est si important. Parce que effectivement, je me rends compte que, par exemple, un des trucs qui m'ennuie de dire le mot esclave, c'est quand on parle de la colonisation grecque. Et en fait, il y a un truc qui est, effectivement, ça revient dans toutes les formes de ce qu'on appelle esclavage, le côté distinction statut d'étranger, statut de citoyen, en fait. Et c'est intéressant parce que justement, le jeune Bruxellois qui parlait, il a le même réflexe que moi, à savoir d'associer l'esclavage au fait d'être forcé à travailler.
Ouais.
Alors qu'en fait, j'ai l'impression que chez les historiens, il y a un peu une idée de se dire non, mais de toute manière, les humains, ils peuvent pas s'empêcher d'être en activité, c'est leur destin dans la vie. Donc finalement, la question de est-ce qu'ils travaillent ou est-ce qu'ils travaillent pas et tout machin, c'est pas très important. Par contre, la question d'être privé de ses libertés, de sa famille et de ses choix, beaucoup plus important que la question du travail. Alors que nous, dans la conscience commune, c'est le premier symbole de l'esclavage, c'est on te force à travailler sans être payé.
Ouais. Et je pense qu'il y avait aussi, en fait, les sociétés, la société Congo mettait l'accent sur l'un ou l'autre et qu'il y avait aussi tellement de formes d'esclavage différentes que parfois ça va être le travail qui va compter comme un marqueur de l'esclavage. Et d'ailleurs, il y a même des insultes, il y a des termes qui veulent dire personne bête, virgule, esclave. Bon, c'est toujours dans la traduction d'un missionnaire suédois, donc voilà, il faut prendre avec des pincettes aussi. Mais...
Et puis les langues fonctionnent de façon très différente. Je sais que par exemple, une fois j'ai demandé à une copine qui étudiait le japonais. Et je lui disais, dans les animés, ils traduisent « t'aimer » par plein de trucs différents. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une traduction. Elle me dit « oui, mais parce qu'en fait, t'aimer, ça veut dire « tu ». Simplement, dans la langue japonaise, tu peux dire « tu » de façon respectueuse ou « tu » de façon insultante. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, en français, on est obligé de passer par « toi l'ordure » et pas par juste « toi », parce que ça veut rien dire. Tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que la traduction, elle doit être particulière, mais c'est intéressant de voir qu'en langue kikongo, eux ont eu besoin d'avoir des mots bien différents.
Ouais.
Pour parler de situations différentes.
Voilà, selon les situations et selon l'aspect sur lequel ils veulent mettre l'accent, quoi. Selon ce qui compte à ce moment-là, en fait.
Alors moi, j'ai un truc que justement, maintenant qu'on a parlé de tout ça et qu'il nous reste un peu de temps, j'aimerais que tu me parles de quelque chose qui a été vraiment difficile à comprendre pour moi en préparation. C'est quand tu m'as parlé de la relation entre les administrateurs et les missionnaires. Et en fait, c'était difficile pour moi parce que mon cerveau de blanche d'Europe essayait de les catégoriser sur qui est méchant, qui est gentil. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des symboles qui étaient des trucs de méchants à l'époque, qui sont passés dans des trucs de gentil et inversement, et qu'en fait, tu étais obligée de me dire, tu dis ça parce que tu vis dans une société abolitionniste. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques un peu le point de vue sur l'esclavage des administrateurs et des missionnaires.
Ouais, et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il faut un peu se départir, en tout cas quand tu fais de l'histoire, te départir de tes catégories morales parce que sinon, c'est tellement compliqué que tu sais plus attribuer. Enfin, en tout cas, il y a ce moment de la recherche où tu dois un peu suspendre ça. Et donc, en fait, je t'en ai parlé parce que je te racontais toutes ces plaintes sur lesquelles j'ai travaillé, qui ont été émises par un missionnaire donc, du Congo, qui s'adresse à l'administration coloniale en disant « il y a plein d'esclavage partout, c'est horrible ». Et donc, il cite des cas très précis, etc., très argumentés. Et puis, ces plaintes, elles n'ont pas trop de suite. Et les administrateurs ne se bougent pas du tout parce que ils ne veulent pas se froisser avec les autorités locales.
D'où le fait que c'est une colonisation de traités plus que de physique, de guerre violente. Quoi.
De traités, de négociations, de s'insérer en fait, dans le tissu aussi local. Quoi. Mm-hmm. Ils ne peuvent pas faire sans...
Ouais, du coup, tu as des administrateurs d'un côté qui disent « Non, mais on va les laisser faire leur mode de vie tranquille si ça nous permet d'asseoir notre pouvoir. » Et les missionnaires qui sont beaucoup plus idéologiques et qui disent...
Ils veulent transformer la société africaine. Les missionnaires, ils veulent tout changer. Ils veulent passer de la polygamie à la monogamie. Ils veulent supprimer toutes les formes qui peuvent associer à l'esclavage. Ils veulent vraiment transformer en profondeur toute la société. Mm-hmm. Et du coup, à la fois, c'est eux qui ont des impacts que tu pourrais peut-être qualifier de positifs sur certains aspects, et en même temps, et qui sont assez... c'est pas tout à fait des colons, quoi. Ils ont quand même une action à part. Et en même temps, c'est eux qui sont les plus volontaristes dans le changement social et familial et intrinsèque aux populations, ce qui est une violence inouïe, en fait. Et c'est toute l'ambiguïté. Hein. Et les administrateurs... Ah bon, après, dans chaque groupe, évidemment, les positionnements sont pas univoques, tu vois. Il y a des administrateurs qui veulent aussi combattre l'esclavage dit domestique, enfin, voilà.
Eh bien, écoute, j'ai envie de continuer à parler pendant 2 heures de ces choses-là, mais en fait, déjà, en arriver là, ça nous a pris beaucoup de temps. Donc, je voulais te remercier d'avoir accepté de venir nous parler de ton domaine d'expertise. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ton travail ?
J'ai un article qui va être publié.
Dans quelle revue ?
Dans la revue Clio Femmes Histoire Société, Femmes Genre Histoire, je ne sais même plus. Mais ce n'est pas encore publié. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en ligne.
Quand est-ce qu'il sortira cet article à peu près ?
Normalement, à la fin de l'année.
Ok, super. Ouais. Donc décembre.
Il y a un numéro spécial Genre et Esclavage. Donc ça va être chouette.
Trop bien.
Va être super chouette.
Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Et puis nous, on va se dire au revoir en terminant par la chanson du rappeur Azagia Gaya, rappeur mozambicain, qui est mort récemment et qui était très politisé. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant qu'on mette la chanson ou...
C'est juste en fait, c'est un rappeur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que je fais partie d'un club de lecture avec d'autres collègues doctorants et on travaille sur les Afriques de langue portugaise, de langue officielle portugaise. Et donc à cette occasion, voilà, j'en profitais pour faire un petit hommage.
Tu vois. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, bon week-end à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Kixa. Bonne journée à vous.
em seu processo, que essa hora foi assassinado por gente do governo que até hoje finge que procura o culpado e que foi tudo planeado para que parecesse um acidente e o caso fosse logo abafado. Esse é o sucesso, canivalzinho, é mais um pau mandado que não fugiu da machava, mas foi libertado pelo mesmo sistema judicial que o tem condenado. E o mais provável é que ele agora seja eliminado. Esse é o sucesso, que assim passiva, coitado, foi uma vítima da corja homicida que matou Cardoso na avenida. Não a Aníbal, a sua equipa, condenados pelos mídia, mas a mesma que deixou Pedro Langa sem vida. Esse é o sucesso, que Moçambique não é tão pobre como parece, que são falsas estatísticas e alguém que enriquece com dinheiros do FMI, OMS e Unicef, depois faz o povo crer que a economia é que não cresce. Eu dissesse que a oposição deste país não tem esperança, porque o povo foi ensinado a ter medo da mudança. Mas se eu dissesse que a oposição e o governo não se referem, comem todos o mesmo prato e tudo está como eles querem. Se eu dissesse que a barragem de que a hora passa na nossa, atropelhado gente que ainda vai encher a bolsa. Se eu dissesse que há jornais que fabricam informação para venderem mais papel e ganharem promoção, e que são os mesmos que nos vendem aquela imagem de caos que transformam cinco ovelhas em lobos maus. Sucesso que há canais de televisão comprometidos com o governo, só abordam os assuntos pervertidos, que esses telejornais já foram todos vendidos. Vocês ouvem o que eles querem os vossos sorrisos. Se eu dissesse que eu decido em Moçambique é um negócio, ONGs olham para o governo como sócio. Porque tudo que eles dizem é verdade,
é verdade.
Porque tudo que eles não dizem não é verdade,
é verdade.
Eles fazem pensar que tu sabes,
mas não sabes.
Cuidado com as mentiras da verdade,
é verdade.
Porque nem tudo que eles dizem é verdade,
é verdade.
Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade,
é verdade.
Eles fazem de pensar que tu sabes,
mas não sabes.
Cuidado com as mentiras da verdade,
é verdade.
Se eu dissesse que a história que tu estudas tem mentiras, que o teu cérebro é lavado em cada boa nota que tiras, que a revolução não foi feita só com canções de vivas, houve traição, tortura e versões escondidas. Se eu dissesse que antigos combatentes vivem de memórias, deram a vida pela pátria, o governo só lhes conta histórias. Quantos nos dias de hoje dariam metade do que eles deram em nome de Moçambique, não os que vocês elegeram? Se eu dissesse que o deixo andar, não deixou de existir, vejo os corruptos a brincar e de tentar e se pedir comissões dentro de corrupção criadas por corruptos a subornarem-se entre eles para multiplicar os lucros. Se eu dissesse que as vagas anunciadas já têm donos, fazemos pichas nas estradas, mas nem sequer supomos que metade das entradas pertence a esquemas de subornos.
Universidades
estão compradas, mas que raio de merda somos? Se eu dissesse que o teu diploma de engenheiro não é para hoje, enquanto sem economistas, engenheiros sem dois, lares universitários abarrotados de gente, vai ver as pautas a vermelhos, decentes e diferentes. E se eu dissesse que neste país os estrangeiros já que mandam, tem o emprego e o salário que querem, ainda mandam meia dúzia de nacionais para a rua. É o neocolonialismo da maneira mais crua. Se eu dissesse que a cor da tua pele conta muito, quanto mais clara, mais portas que se abrem, é absurdo. Os critérios de seleção para emprego, vai para empresas tipo banco e não encontras nem um negro. Se eu dissesse que a polícia da república é uma comédia, são magrinhos sem postura e vendem-se por uma moeda. Agora matam-se entre eles, traição na corporação. Afinal de contas, quem é o polícia, quem é o ladrão? Se eu dissesse que há bancos que financiam partidos e meia volta aparecem com os cofres falidos.
Porque nem tudo que eles dizem é verdade,
é verdade.
Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade,
é verdade.
Eles fazem pensar que tu sabes,
mas não sabes.
Cuidado com as mentiras da verdade,
é verdade.
Porque nem tudo que eles dizem é verdade,
é verdade.
Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade,
é verdade.
Eles fazem pensar que tu sabes,
mas não sabes.
Je fais des efforts pour toi ce soir, je prendrai qu'un acier. Regarde mon visage tout lacé, vas-y, je t'épargne la suite. Je dois m'entraîner pour la scène, monter un palace.